France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Peut-être que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous voyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Sur le dernier album de nos invités, on peut entendre ce titre « Monde nouveau » ou encore celui-ci « Avant qu'il n'y ait le monde ». Mais que cherche-t-il dans cette exploration du temps ? De l'inspiration, assurément. Cela va d'ailleurs même jusqu'au choix du nom de leur groupe, celui d'un jeune poète qui s'est suicidé à l'âge de 17 ans, archétype même du poète maudit, l'anglais Thomas Chatterton. Des musiciens fous de poésie et de musique, fous du passé et du temps présent. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur France Musique Arthur Teboul et Sébastien Wolf du groupe Feu Chatterton. Bonjour et bienvenue à tous les
Bonjour.
Deux. Quel plaisir de vous accueillir ici avec cet extrait de la messe pour le temps présent de Pierre-Henri et de Michel Colombier. Un extrait ici psyché rock que vous avez choisi pour nous, Sébastien Wolf. Un
petit mot. C'est ce que je disais là, quand le micro était éteint, c'est que... Il y a des bruits dans ce morceau, on entend les bruits là, et c'est exactement ce type de recherche sonore qu'on a fait sur ce nouvel album, Palais d'Argile, notamment dans un morceau qui s'appelle Monde Nouveau, dont vous avez parlé. Et ça m'a là tout de suite, ça m'évoque ça en fait, et notamment cette phase en studio où on essayait de travailler sur un morceau rock, une matière sonore qui est de l'ordre du bruit, mais qui donne des émotions, et est-ce que... Pierre-Henri là, dans le morceau, c'est ça, c'est, il a une base rock derrière et il essaye de la détruire, de la décortiquer. Après, ça représente pas du tout toute son œuvre, donc c'est un morceau très particulier dans son travail. Mais c'était important, je pense, pour nous de faire écouter ça, parce que on a travaillé avec Arnaud Robotini sur ce disque, qui est un musicien qui vient de la musique électronique, mais qui a une grosse dimension électroacoustique de recherche sonore. Et Pierre-Henri, c'est le papa de ça, quoi.
J'allais dire, il a été pionnier. Et si cette œuvre remonte à 1967, musique effectivement truffée d'effets électroniques, je crois que c'était une des premières fois où l'électronique, d'ailleurs, était employée pour ce titre. Un petit pied dans le passé, c'est ça qui pourrait aussi résumer l'influence de votre groupe, de votre musique de Feu Chatterton, Arthur.
Je dirais rétro-futuriste.
Rétro-futuriste,
c'est-à-dire
c'est
que là, on est en 67. Mais on ne sait pas si on est en 2042.
Effectivement.
Et c'est ce mélange-là qui plaît beaucoup. C'est à la fois du rock, de la pop, à la fois de la musique concrète. Et ça passe nécessairement par un usage de la machine. Je trouve beau aussi, on est toujours dépendant des machines de son époque. Et certaines machines d'une époque, et ben finalement, durent. On utilise quasiment aujourd'hui, ce que disait Sébastien en fait, les mêmes machines, les mêmes synthétiseurs modulaires. Bon, c'est des trucs un peu techniques, mais c'est les mêmes systèmes électroniques qui chauffent, qui permettent de faire ces sortes de sons.
Et dans le répertoire de la musique classique, qui précède un petit peu Pierre-Henri justement, qu'est-ce que vous aimez vous deux, hein, Arthur et Sébastien, qu'est-ce que vous aimez aller piocher, aller retirer ?
Je pense qu'après... là, peut-être on va en écouter après, mais je veux pas, je pense c'est à Messiaen, mais il y a tout un ensemble de compositeurs qui ont essayé de travailler le son d'une manière nouvelle à partir du XXe siècle. Et je pense que, enfin, en tout cas moi, ça m'a toujours beaucoup inspiré. Peut-être on en parlera plus tard. Après, en lien avec notre groupe, on est très lié au romantisme, au lyrisme, à la mélodie, au travail de harmonique et de mélodies fortes. Et en ça, je pense qu'on est très touché par le 19e siècle, par Chopin, par Beethoven, par des compositeurs qui sont, on va dire, plus connus, mais qui en fait ont eu la force de faire la pop de l'époque. Parce qu'en fait, c'était des grands mélodistes avant tout, et ils étaient capables de développer leurs mélodies autour d'arrangements qui les amenaient à droite à gauche. Je pense qu'on va pouvoir en parler un peu plus pendant l'émission, mais c'est, je pense, nous, ce qu'on fait en musique, c'est ça. Alors, on entendait dans le générique l'élitisme. Moi, ça m'a tout de suite, ça m'a interpellé.
Est-ce
parce
que
qu'on
musique,
on nous
cette musique
ça,
serait réservée à une certaine
voilà.
élite?
C'est la même chose pour la poésie. Souvent, c'est une question qui revient. Est-ce que la poésie, c'est quelque chose d'élitiste? Et je pense que pour la musique classique, il y a aussi toujours ce biais-là. Et je pense sincèrement que c'est faux, que ce soit pour le classique ou pour la poésie. À partir du moment où on n'en fait pas quelque chose de muséal et qu'on assume la vitalité de ce champ artistique-là, que ce soit la poésie ou la musique classique, parce qu'en réalité, dans la musique classique, il y a énormément d'expérimentation, il y a une grande liberté, il n'y a pas besoin d'avoir une culture gigantesque pour l'apprécier.
Pour être touché, quoi, plus qu'apprécié. Ouais. C'est... Peut-être que cette critique qui s'adresse à la poésie ou à la musique classique, elle pointe un défaut qui peut exister réellement, celui de faire quelque chose qui soit hermétique ou qui ne touche pas. Mais c'est vrai que on a plus l'impression que si ça touche pas, c'est parce que c'est entouré d'une forme de sacralité, de froideur, qui n'est pas la musique elle-même ou la poésie elle-même. Si on se laisse prendre par une mélodie de Bach, enfin une composition de Bach ou de Vivaldi, il y a de fortes chances qu'on soit touché si on oublie nous-mêmes les a priori qu'on a vis-à-vis de ce qu'est la musique classique et ce qu'est la poésie.
Extrait de ce Stabat Mater d'Antonio Vivaldi, ici interprété par James Bowman, le contre-ténor, l'Académie de musique ancienne, Christopher Wood à la direction, votre choix, Arthur Teboul du groupe Feu Chatterton pour nous. On en parlait à l'instant.
Oui,
de
c'est
Vivaldi,
ça,
de cette ouais. beauté, de cette musique
d'être,
sacrée.
D'être touché, c'est-à-dire, quand j'ai reçu ce questionnaire, choisir une j'allais dire une chanson, mais.
Oui, c'est une chanson.
J'ai repensé à la première fois que j'ai pleuré en entendant de la musique classique. Et c'était sur ce morceau.
C'était dans quelles circonstances ?
Une circonstance tout à fait saugrenue. J'étais dans le Gers, chez un ami excentrique de mon père qui s'appelle Bertrand. Et on était trois, avec un autre copain qui s'appelle Émilien, de mon âge. Et on avait passé une soirée à boire du tiponche et à refaire le monde. Et cet ami a une très grande grange au milieu d'un bois. Et il nous a dit, voilà, je vais vous faire écouter un truc. Et on s'est mis au milieu de la grange, on a mis... ça extrêmement fort et on a pleuré tous les trois, c'était magnifique, voilà, je me souviendrai toute ma vie.
Et puis vous, en tant que chanteur, j'imagine aussi que cette voix absolument magnifique de James Bowman a dû aussi trouver écho en vous.
Je m'en suis rendu compte plus tard, c'est-à-dire quand j'ai découvert d'autres versions de ce Stabat Mater chantées par d'autres et que j'étais frustré. C'est là que je me suis rendu compte à quel point cette interprétation de James Bowman et de manière générale l'interprétation dans tout, mais en musique classique en particulier, change l'œuvre parce que c'est, j'ai l'impression, moi qui m'y connais assez peu, vraiment un répertoire d'interprètes. Nous, dans la musique actuelle, composer, c'est presque écrire une chanson, c'est mis au même rang que l'interpréter, quoi, parce qu'on écrit des chansons et on les présente. J'ai l'impression que aujourd'hui il y a un tel répertoire en musique classique que l'interprétation est vraiment
l'art de l'interprétation
avant l'art de la composition. Peut-être que je me trompe, mais Seb dirait qu'il y a beaucoup plus de compositeurs.
Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que ça a été, on va dire, une normalité à une certaine période de la musique d'être à la fois compositeur et interprète. Ça s'est perdu, ça revient.
Ouais.
Il y a des vagues, effectivement, dans l'histoire de la musique. Moi, j'aimerais qu'on écoute un extrait de votre nouvel album Palais d'Argile, ce titre Compagnon. Il est, je pense, si j'ai bien compris, vous me corrigerez si c'est pas le cas, mais aussi question un peu d'un musicien qui se pose des questions quant à ce qui touche potentiellement ses auditeurs, ses spectateurs. En voici un extrait.
Compagnon de ma vagio, que vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil vide, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais. J'en ai bien pas au conseil pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon de ma vagio.
Un extrait de ce titre, Compagnon. Sébastien Volk, qu'est-ce qui vous touche, vous, dans la musique? Quelle est la recette magique?
Qu'est-ce qui me touche? Je pense que c'est... en général, dans la musique, en fait, c'est difficile de mettre des mots dessus. C'est quelque chose de directement physique qui passe très peu par la médiation de la raison. C'est peut-être ça qui me plaît parce que j'ai fait des études scientifiques où la raison était le plaisir de raisonner était quelque chose de central. Et dans la musique, ce qui me porte et ce qui fait que c'est devenu mon métier, c'est que c'est à l'opposé de ça. C'est une totale liberté par rapport à ça. Faire de la musique, c'est, quand on compose, c'est s'écarter de tout raisonnement, de toute théorie, de toute idéologie ou de toute logique. Juste se laisser porter par des accidents émotionnels qui arrivent quand je suis avec Arthur, par exemple, quand on compose.
C'est ce que j'allais vous demander. Ce sont des débats que vous avez au sein même du groupe. Je pense aussi aux autres membres, hein, Clément Doumic, Raphaël de Pressigny, Antoine Vilson.
En fait, on recherche une forme d'accident émotionnel qui nous relie tous les cinq. Il y a une dimension presque mystique dans ce qu'on attend. En fait, on attend qu'un événement arrive et qu'il soit évidemment beau pour nous cinq. Une forme d'évidence qui fait que le morceau va à la fin finir sur un disque. Et s'il n'y a pas cette évidence, s'il n'y a pas ce moment-là, ce sentiment partagé de « Ah, il se passe quelque chose qui descend du ciel et qui est arrivé en nous », si on n'a pas cette émotion-là, les morceaux, ils finissent à la poubelle.
Sébastien, vous avez choisi pour nous une œuvre qui a vu le jour dans un contexte absolument...
Tragique
et à la fois extraordinaire. Une œuvre composée pendant la captivité d'Olivier Messiaen dans un camp de prisonniers pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une œuvre donc composée en situation de crise. Le compositeur est tiraillé par le froid et la faim et il compose ceci.
Thank you.
L'intermède, quatrième mouvement du Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen, interprété ici par Raphaël Sever à la clarinette et le trio Messiaen à ses côtés. Votre choix, Sébastien Wolf, du groupe Fouchaterton, œuvre créée, je le disais, en 1941, avec notamment Olivier Messiaen lui-même au piano.
Il était au piano, ouais.
Concert organisé donc dans un camp de prisonniers par un officier allemand mélomane.
Ouais. L'histoire du morceau est tragique et magnifique en même temps. Olivier Messiaen a été fait prisonnier, je ne sais plus dans quel camp exactement.
À Görlitz.
Indépendamment de l'histoire, le Quatuor est magnifique. Parce que pour moi, ça a été la musique du XXe siècle. Elle me touchait moins quand j'étais adolescent. Je pense que c'était peut-être le cas pour beaucoup de gens. Et j'ai découvert Olivier Messiaen par un opéra Saint-François d'Assise. J'aurais pu le mettre parce que tout d'un coup, j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait... sortir des gammes, sortir de la tradition harmonique plus classique et en même temps être touché. Parce que c'était quelque chose qui m'était... C'était, pour moi, ça restait cérébral avant ce moment-là. Et notamment, en Saint-François, il y a un instrument... D'ailleurs, Messiaen en jouait, les ondes Martineau. C'est la première fois que j'entendais des sonorités presque synthétiques dans des instrumentations classiques. Donc ça m'avait beaucoup marqué. Et je pense que ça a suivi après le travail aussi qu'on fait autour des synthétiseurs dans le groupe. Mais là, j'ai choisi aussi cette œuvre parce qu'on est à une période compliquée un peu de l'histoire aussi. Et c'est important de se rappeler que les œuvres d'art, et en l'occurrence Olivier Messiaen, qui n'était pas juif, qui était un catholique, un fervent pratiquant et croyant, a créé cette œuvre pour aussi, et qui est marquée profondément par cette époque très tragique. Le début du Quatuor, le premier mouvement est magique. On entend des oiseaux. Et en fait, tout le travail autour des chants d'oiseaux aussi de Messiaen à l'époque m'avait beaucoup marqué. En fait, ça a été une vraie découverte.
Messiaen, de l'univers d'un compositeur, de sa liberté.
D'une liberté par rapport au son. En fait, tout d'un coup, sortir des carcans classiques, des instruments qu'on utilise d'habitude, et en même temps, toucher les gens.
France Musique, Saskia Deville.
Et à l'instant, nous avions cette clarinette qui chantait « Vous avez choisi pour nous, Arthur ». Arthur, un air de l'Acmé, opéra de Léo Delibes, ce somptueux duo des fleurs. On écoute Sabine Deviel et Marianne Crébassa. Sabine Deviel, Marianne Crébassa, Les Siècles, François-Xavier Roth à la direction, extrait de cet opéra L'Acmé de Léo Delibes que vous avez choisi pour nous, Arthur Teboul. Un petit mot.
On en parlait au tout début de l'émission. Qu'est-ce qui m'attire dans la musique, qu'est-ce qui me touche? C'est vrai qu'en premier lieu, ce sont les mélodies. Et parfois, on a l'impression d'entendre des mélodies tomber du ciel, qui capturent quelque chose de l'ordre du chant de l'oiseau, de la nature elle-même. J'ai l'impression que c'est un peu ce que cherchent tous les musiciens mélodistes, parce que tout le monde n'a pas une approche mélodique de la musique quand on est compositeur, mais quand on cherche des mélodies, j'ai l'impression que c'est ça, c'est trouver des clés dans les portes du monde, quelque chose qui serait là en attente et qui nous révélerait une immensité comme ça à portée de main. Et la première fois que j'ai entendu cette mélodie, c'était à la radio, et j'ai mis très longtemps à retrouver l'origine de cette mélodie qui retombait sur ses pattes. J'aime bien aussi les mélodies cycliques. Quand ça finit, le motif se répète tout de suite. Et il y a quelque chose, ouais, d'extrêmement gracieux. Et aussi, je suis toujours très ému par les voix, comme celle de James Bowman tout à l'heure. Entendre des duos comme ça, des voix qui s'enchevêtrent avec une écriture à la fois d'une grande délicatesse et aussi d'une grande simplicité. Je crois que ça qui me touche, c'est entendre des choses qui sont à la fois simples et complexes. Il y a une évidence et en même temps, c'est extrêmement raffiné.
Et puis une mélodie, c'est un texte aussi.
Ouais, Arthur, le livret est magnifique. De
vous avez commencé à écrire vos textes très jeunes aussi. Quelles sont vos influences justement? Est-ce qu'il y a d'autres mélodies, d'autres compositeurs ayant collaboré avec des poètes, je ne sais pas, qui vous inspirent, qui...
L'opéra m'a pas tant inspiré, parce que d'abord je trouve que c'est difficile de comprendre ce que les gens disent quand ils viennent de l'opéra, donc il faut avoir les sous-titres. Et en français il y en a des Bizet, tout ça, il y a des trucs très très beaux, mais c'est difficile de vraiment distinguer
voilà, le phrasé.
Texte.
Ouais, le phrasé, ouais. C'est un autre phrasé. Ouais.
Okay. Mais je peux vous lire un petit bout de ce livret,
ah ben
parce que
plaisir.
Je trouve ça très très beau aussi, parce qu'on parle de la mélodie, mais c'est très très beau. Le duo des fleurs. Sous le dôme épais, où le blanc jasmin à la rose s'assemble, sur la rive en fleurs, riant au matin, viens, descendons ensemble. Doucement glissons de son flot charmant, suivons le cours fuyant, dans l'onde frémissante. D'une main nonchalante, viens, gagnons le bord, où la source dort, et l'oiseau chante. C'est un poème magnifique.
Mais c'est magnifique et puis je trouve que ça vous colle très bien parce qu'il y a beaucoup de poésie lumineuse dans les textes de Feu Chatterton. Je trouve que ça s'y prête à merveille. On va déjà devoir se quitter malheureusement, Sébastien Wolf et Arthur Teboul. Mais en musique, nous allons le faire avec Frédéric Chopin. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Sébastien. Frédéric Chopin, cette balade en sol mineur interprétée par Vladimir Horowitz. Nous sommes en 1968. Ben, merci à vous de nous l'avoir proposé, surtout. Et puis merci à toute l'équipe, Éric Lancien, Pauline Boisaubert, Pierre Monteil. Merci mille fois à tous les deux d'être venus sur France Musique.
Merci.
Avec grand plaisir et à très bientôt.
À réécouter sur francemusique.fr.